VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Bamako, 17h à Brazzaville. Bienvenue à notre journal. On commence par la crise migratoire où au moins 239 personnes sont mortes ou portées disparues après deux nouveaux naufrages de migrants mercredi au large de la Libye. Les détails avec Claire Morin-Gibourg.
Un groupe de migrants, dont une vingtaine de femmes et 6 enfants, est parti hier de Libye, mais leur bateau a pris l'eau au bout de quelques heures de navigation. Selon Flavio Di Giacomo, porte-parole de l'OIM, l'Organisation internationale des Nations unies pour les migrations. La plupart de ces migrants se sont noyés avant l'arrivée des secours. Seulement 27 personnes ont survécu. Un second naufrage a eu lieu toujours au large de la Libye. Deux survivantes ont témoigné que leur bateau transportait environ 130 personnes. 4220 personnes sont mortes en Méditerranée en 2016. Près de 28 000 migrants sont arrivés en Italie pour le mois d'octobre, ce qui monte à 158 000 personnes qui ont atteint les rives de l'Europe cette année.
Afrique de l'Ouest maintenant. Les prochaines élections législatives en Côte d'Ivoire auront lieu le 18 décembre. Bruno Kone, porte-parole du gouvernement ivoirien, l'a annoncé ce jeudi. John Lindon.
Cette date a été proposée par la Commission électorale indépendante. Le 18 décembre, les bureaux de vote ouvriront à 8 heures pour se fermer à 18 heures, heure locale. Bruno Kone a également précisé que les dates de la campagne et d'autres éléments seront donnés ultérieurement. Ces législatives seront à tour unique, le candidat arrivant en tête étant élu député. La coalition au pouvoir dispose actuellement d'une majorité écrasante, soit 90% des 250 députés. Le Front populaire ivoirien, ancien parti au pouvoir, avait boycotté les législatives de 2011. Cette fois-ci, l'opposition qui a boycotté le référendum dimanche dernier a décidé de participer aux législatives. Pascal Affine-Guessant, président du principal parti d'opposition, le FPI, a réitéré que la bataille à venir, c'est de mobiliser pour conquérir l'Assemblée nationale.
Au Gabon, plusieurs personnes ont été interpellées ce jeudi matin au siège du journal gabonais d'opposition Écho du Nord dans la capitale Libreville. Des hommes armés en civil sont entrés dans la salle de rédaction alors que les journalistes bouclaient l'édition à paraître demain vendredi, a indiqué à l'AFP l'un de leurs collègues, Wilfried Kombinziengi, qui dit avoir réussi à s'échapper. 9 personnes ont été interpellées pour être auditionnées dans le cadre d'une enquête, a déclaré pour sa part le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement gabonais, Alain-Claude Billy Binze. Selon lui, l'enquête porte sur un article paru mercredi mentionnant l'imminence d'un coup d'État militaire après la réélection contestée du président Ali Bongo Ondimba. L'article titrait sur l'arrestation du général Célestin Mbinga, patron de la Direction générale de la documentation et de l'immigration, DGDI. Les services de renseignement, également chargés des titres de séjour délivrés aux étrangers. Une arrestation démentie par d'autres médias. En RDC, la Direction générale de la BGFI Banque a démenti les révélations du journal belge Le Soir sur l'opacité de la gestion des fonds des élections. Il est question de malversation et de blanchiment de fonds. Il en mentionne la CENI, la Commission électorale nationale et le président Joseph Kabila, entre autres. L'un des responsables de la BGFI Banque s'étonne des amalgames faits dans la presse. On écoute Abdelkader Diop, directeur adjoint.
Monsieur le président de la République n'est pas client de BGFI Banque. Concernant le tour de table du capital, je sais simplement qu'il y a des privés congolais qui détiennent 40%. Moi, je suis un salarié de la banque. Je ne suis pas un actionnaire. Donc, je ne participe pas à l'Assemblée générale de la banque pour savoir qui vient et qui ne vient pas. Ça, c'est un. Deuxièmement, j'ai le nom des actionnaires. Il n'y a pas de Kabila. Il n'y a pas de Kabila. Il n'y a pas de Kabila et ça, c'est vérifiable. Simplement, quand on parle de blanchiment, il s'agit d'argent sale venu d'autres personnes et qui l'injecte dans le circuit financier. Nous ne sommes pas dans ce cas. La CENI reçoit son argent du gouvernement. Et on dit même que les retraits effectués par la CENI sont des opérations de blanchiment. Là, j'avoue, je ne comprends rien parce que le blanchiment se fait à l'entrée de l'argent sale dans le circuit financier, mais pas à la sortie. Moi, je suis une porte de sortie. Une fois que ce n'est pas rentré par mon canal dans le circuit financier, on ne peut pas me reprocher d'être coupable ou que j'ai participé à une opération de blanchiment.
Abdelkader Diop, directeur adjoint de la BGFI Banque en RDC.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Congo-Brazzaville voisin, le gouvernement a adopté un projet de loi qui crée le statut de chef de l'opposition. Les autorités veulent que le tenant de ce titre soit le leader politique dont le parti a le plus d'élus après la formation au pouvoir. Si certains opposants comme Pascal Tassi, Mabdiala et Guy Brice-Parfait-Kolela saluent cette initiative, d'autres y voient plutôt une manœuvre du gouvernement pour contrôler les opposants. De Brazzaville, les précisions de notre correspondant Nguela Ngoussou.
Selon la future loi, le chef de l'opposition sera celui dont le parti dispose le plus de lui au Parlement. Pascal Tassi Mabiala, le premier secrétaire de l'UPADS, première formation de l'opposition représentée à l'Assemblée nationale, se frotte plutôt les mains.
C'est nouveau dans notre législation.
Et tout le monde nous regarde, Kolela, c'est moi. Non, la loi ne dispose que pour l'avenir. Ce n'est pas les situations actuelles qui sont acquises, où moi j'ai un nombre important de députés relativement important par rapport au MCDD, mais ce n'est pas ça. Le calcul ne sera pas fait sur la base de la situation actuelle, mais des prochaines élections législatives qui auront lieu en 2017. C'est-à-dire qu'après le parti majoritaire, le parti qui viendra après, ça peut être l'UPADES, et je souhaite, moi je veux que nous soyons le premier. Pourquoi voulez-vous que ce soit moi de l'opposition? Moi, l'objectif est que je sois le premier.
La frange de l'opposition, qui n'est pas représentée dans les institutions, craint d'être emportée par cette nouvelle loi. C'est pourquoi elle insiste sur la pluralité de l'opposition. Pour Clément Mirassa, seule l'organisation prochaine du scrutin législatif sans contestation peut amener à la désignation consensuelle du chef de file de l'opposition.
Tout ça a un problème de fond. C'est l'organisation dans ce pays d'élections libres, démocratiques et transparentes. Élections qui ne seraient contestées par personne et qui devraient être organisées par une commission nationale électorale véritablement indépendante. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui fait que on a le sentiment que c'est le pouvoir qui s'organise pour avoir y compris la mainmise sur la prétendue opposition. Il y a ceux qui ont pris acte, il y a ceux qui ont reconnu, il y a ceux qui ne reconnaissent pas. Si je prends déjà les 5 candidats, vous connaissez bien les points de vue des uns des autres. Donc, à mon avis, c'est une question qui doit être regardée calmement, que le chef de l'opposition soit un véritable opposant.
Avec un regard de recul, l'analyste politique Timothée Makita estime que le projet est bon, quitte au futur chef de l'opposition de rassembler.
Je pense qu'il faut être positif et se dire, ce personnage, une femme ou un homme qui sera choisi pour représenter l'opposition avec toutes les prérogatives qui vont avec ce statut, doit savoir qu'il est là pour représenter toute l'opposition dans sa diversité, dans son caractère pluriel. Donc si le gouvernement légifère, il revient à l'opposition de s'organiser de telle manière qu'aucune frange de cette opposition ne soit laissée au bord de la route.
Si Tassi Mabiala et Guy Brice-Parfait-Kolela rapprochent leur point de vue sur la question, d'autres leaders de l'opposition voient là une nouvelle manœuvre du pouvoir visant à les contrôler. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Afrique du Sud, le Parlement sud-africain examinera le 10 novembre à la demande de l'opposition une motion de défiance contre le président Jacob Zuma après la publication de rapports sur des accusations de trafic d'influence exercées par une riche famille d'hommes d'affaires dans la désignation de membres du gouvernement. Les détails avec Nani Talani.
Le rapport de Tuli Mondo-Sela, ancienne médiatrice de la République, a finalement été publié hier sur ordre de la justice. Il pointe de lourds soupçons de collusion entre l'exécutif et la riche famille Gupta d'origine indienne. Il dénonce par exemple les 7 visites de David Van Rooyen, alors député de l'ANC, à la résidence des Gupta à Johannesburg, y compris la veille de sa nomination surprise au ministère des Finances en décembre 2015. Le rapport revient également sur les affirmations du vice-ministre des Finances, Ntsebisi Jonas, qui a assuré en mars que les frères Gupta lui avaient proposé de prendre le portefeuille du Trésor. La médiatrice s'étonne que l'exécutif n'ait jamais mené d'enquête sur ces affirmations. D'autres ministres sont épinglés comme Mossé Benzi Zouane, titulaire du portefeuille des mines. Il avait effectué fin 2015 un voyage privé en Suisse aux côtés des Gupta qui négociaient à l'époque le rachat d'une mine de charbon en Afrique du Sud. Ce déplacement est qualifié de contraire aux règles d'éthique. Pour conclure, l'ancienne médiatrice recommande au parquet et à la police d'ouvrir des enquêtes.
Et pour terminer, présidentielle américaine 2016, la démocrate Hillary Clinton et son rival républicain Donald Trump font comparer tous azimuts alors que les sondages se resserrent à l'approche de l'élection du 8 novembre.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.